On est prêt à YouTuber.
Okay. Tov, les amis, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, donc soirée très très particulière, parce que si vous êtes connectés, c'est que vous n'êtes pas encore en train de faire grande Hidva Hadout, c'est que vous n'êtes pas encore en train de faire la soirée de Yud Tet qui se lève. Et oui, car ce soir, c'est Yud Tet qui se lève. Et donc, normalement, vous auriez dû me dire, mais attends, on est en train de danser, on est en train de faire une grosse Hidva Hadout. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ce soir, c'est ce que les Chabad appellent Rosh Hashana la Chassidout. Mais nous, on ne va pas parler Chassidout, on va parler Agadot. Agadot du Talmud, dans le traité de Sanhedrin, dernier chapitre, au Perek Chelek. Et nous sommes arrivés d'Av Tzadik Aleph en bas de la page. Tzadik Aleph, Amoud Aleph en bas de la page. On passe maintenant dans la discussion, les discussions, j'allais dire, entre deux grands personnages qui, en fait, sont en condensé l'aitmodedout que le peuple juif a avec le monde. Puisqu'on va avoir les discussions entre Antoninus et Rabbi. Alors, qui sont ces deux personnages? Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, chef du peuple juif, Nassi du Sanhedrin, descendant direct de David Ameler. Rabbi Yehuda Hanassi, pas mal. D'un autre côté, nous avons Antoninus. Antoninus, eh bien, c'est César. Alors, de quel César on parle? Il y a plusieurs machlokotes, puisqu'il y a plein de Césars romains qui ont pris le patronyme Antoninus. Et donc, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il s'agit de Antoninus Pius? Est-ce qu'il s'agit de Caracal? Ou est-ce qu'il s'agit, et il semblerait que ce soit plus cette option, la troisième, qui est la bonne, il semblerait qu'il s'agit ici de Marc Aurel. Marcus Aurelius Antoninus, Marc Aurel va être César entre les années 121 et les années 180, et c'est exactement la période de Rabbi Yehuda Hanassi. Il va rédiger la Mishnah dans les années 200, donc c'est très possible que ces discussions aient lieu juste avant. Donc, d'ailleurs, ça colle encore plus parce que on va voir que les discussions entre Rabbi et Antoninus sont des discussions philosophiques très poussées, et on sait que Marc Aurel était philosophe stoïcien. Et donc, ça pourrait tout à fait coller entre les deux. Maintenant, quand on parle de Rabbi et d'Antoninus, eh bien, on est obligé de remonter au livre de Bereshit. Quoi ? Rabbi et Antoninus, l'époque du Second Temple, après la destruction du Second Temple, et je nous ramène à l'époque de Bereshit, eh bien oui. Dans la paracha de Toldot, dans le livre de Bereshit, lorsque Rivka est enceinte, eh bien on nous dit « Vaitrotsetsu abanim bekirba ». Vous savez, vous connaissez l'histoire, elle a des jumeaux, tout ça. Et elle va demander à Dieu de quoi il s'agit. On avait déjà parlé longuement. Et à ce moment-là, eh bien, nous dit la Torah « Vayomer Hashem la shne goyim bebitner ». Il y a deux peuples dans ton ventre. Mais le mot goyim est marqué de manière particulière, parce que au lieu d'avoir marqué, eh bien, goyim comme on devrait l'avoir marqué, eh bien, il y a marqué geyim avec deux yud, gimel yud yud mem. Et Rashi nous fait remarquer que ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de deux peuples, mais de deux personnages très puissants. Et tout de suite, on nous dit c'est Rabbi et Antoninus. Rabbi étant le descendant direct de Yaakov, qui est dans le ventre de Rivka, et Antoninus, le descendant de Esav, qui est dans le ventre de Rivka. Et donc, on peut voir que, dès l'origine, on veut voir la relation entre Rabbi et Antoninus comme étant une relation fusionnelle, dès le départ. Et on nous dit, la suite du verset, c'est quoi? C'est « Ushne leumim mime'aïr yiparedu ». Mais lorsqu'ils deviendront des nations, eh bien, ils se sépareront de tes entrailles. En d'autres termes, la paix peut résider entre Rabbi et Antoninus à une condition. c'est que les deux ne cherchent pas l'hégémonie politique. Si les deux tentent à avoir le contrôle du monde, eh bien, ils n'arriveront pas à s'entendre. Mais à l'époque de Rabbi et d'Antoninus, la question est réglée. C'est César qui gère le monde et Rabbi, eh bien, peut s'occuper uniquement du monde spirituel puisque Am Israël n'est plus sur la scène internationale et politique. Et il y avait une véritable relation d'amitié qui régnait entre Rabbi et Antoninus. Et donc, ils vont avoir des débats tous les deux sur, eh bien, j'ai appelé le cours entre positivisme et pessimisme, entre optimisme et pessimisme. On va voir que ces grandes discussions sont parmi les discussions les plus essentielles de notre, du regard qu'on a sur le monde. Alors allons-y. Amar lei Antoninus le Rabbi. Ok? Guf u neshama yecholim liftor atzmam minadin. Dans le corps, eh bien, il y a une partie qui est l'âme, une partie qui est le corps. Les deux peuvent, se dispenser d'être jugés. Keitzad, comment c'est possible? Gouf Omer, Neshama, Chotet. C'est la Neshama qui fait fauter. Ah bon? Regarde la preuve. Shemiyom, Shepircha, Mimeni, Hareni Mutal, Ke'even Domem, Bakever. Le corps, il dit, ben c'est la preuve, la Neshama, c'est elle qui nous fait fauter. La preuve, c'est que depuis qu'elle m'a quitté, je ne fais plus de faute, je ne bouge plus. Et d'un autre côté, une Neshama en mérite, et la Neshama, elle dit, non, c'est le gouffre qui est choté. Parce que miyom shepirashti mimeno, areni porachat ba'avir ketzipor. La preuve, c'est que depuis que je l'ai quitté, je m'envole tel un oiseau, je ne suis plus retenu par les problèmes de ce monde-ci. Donc voilà ce que dit ici Antoninus. Antoninus vient et dit la chose suivante. La relation entre le corps et l'âme est quelque chose de fondamentalement pessimiste. Pour Antoninus, le lien entre l'âme et le corps amène à la faute. On peut y voir ici tous les prémices de la culture chrétienne qui vont arriver derrière. Et ça marche très bien avec un Antoninus qui serait Marc Aurèle et qui serait philosophe stoïcien. Les stoïciens, justement, voyaient dans le corps ce qui empêche la neshama, l'âme, ce qui empêche la conscience de s'élever. Donc on voit ici qu'il y a une véritable prise de position pessimiste sur le monde, que tant qu'on est prisonnier de ce corps, eh bien, on est voué à la faute. Encore une fois, là, on parle de l'Empire romain, mais on sent tout de suite les premières étapes du christianisme. L'époque de Antoninus, ça fait déjà 100 ans que le christianisme est en train de faire avancer ses idées. Et dans le christianisme, eh bien, les choses sont claires. Seule l'âme peut être reliée au divin, le corps est fondamentalement fauteur. Ok ? Amarle, Rabbi a répondu à Antonin. Emshol lecha mashal lema davar domé. Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Lema ze domé. Le melech basar vadam, shayalo pardes, nae, vayabo bechorot naot. Bechorot, ce sont des figues. Les premières figues qui poussent, qui sont des grosses figues bien belles, bien juteuses, bien bonnes. Eh bien, nous dit Rabbi, en fait, je vais t'expliquer l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait, c'était un roi, il avait un champ. Et dans ce champ, il y avait des belles figues, toutes belles, toutes propres, toutes machou. Je voudrais que vous compreniez que si Antoninus a pris comme exemple Gouf Veneshama et qu'il a attaqué le Chibour entre le gouffre et la Neshama, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque la sortie du Gan Eden. Puisque lorsqu'on est au Gan Eden, on n'est que Neshama. Il n'y a pas de ribour avec le corps. Donc si Antoninus s'est dit, quand il y a gouffre et Neshama, ça ne va pas, c'est qu'il porte atteinte, et pour lui, la sortie du Gan Eden, c'est la fin des haricots. Et le machal que va donner Rabbi est également tiré de Sipour Gan Eden. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a pris quoi comme exemple ? D'un Meler qui avait un Pardès, et dans ce Pardès, il y avait des Te'enim. Te'ena, c'est l'un des avis de nos sages pour dire que c'était ça le fruit de Etz Hadaat Tov Vara. Et le mot Te'ena vient du terme souffrance qu'on peut retrouver dans la Megillah de Eicha. Ta'ania ve'ania, zetzar ve'charata. Et donc, on voit bien que Adam et Chava, après la faute, vayir peru ale te'ena. Donc ici, on est en train de revenir au fondement même de la création. Est-ce qu'il est bon que l'âme et le corps soient mis en place ensemble, ba'olam hazé ? Ok ? Et donc, il dit, voilà. Donc, Machal le Mar de Mardomé, il avait donc son champ. Et dans son champ, il y avait des figues. Ve'oshiv bo shne shomrim. Et il a mis en place deux gardiens dans son champ. Echad Chiger, ve'echad Souma. Mazé Chiger, Chiger, c'est quelqu'un qui n'a pas de jambes. Et l'autre, Souma, c'est un aveugle. Là, dans le Machal, vous aurez compris que le Chiger, c'est la Neshama, qui n'a pas le corps pour se déplacer, alors que l'aveugle, c'est le corps, mais qui n'a pas la compréhension suffisante pour avancer comme il faut dans le monde. Amar lo Chiger le Souma, le comment dire en français, quelqu'un qui n'a pas de jambes. Kudjat, c'est quand il n'a qu'une seule jambe. Je ne sais pas s'il y a un mot. En français. Bon, en tout cas, celui qui n'a pas de jambe, il répond et il parle à celui qui est aveugle. Amar lo chiger le souma, bechorot na'ot ani roe ba pardes. Bo ve'arkiveni.
Une jambe, c'est une mi-jambiste, je ne sais plus.
Ouais, c'est kudjat.
La kudjat, c'est ouais, quand tu as pas deux jambes.
Ah, kudjat, c'est deux jambes ?
Je crois.
Bon, alors vas-y, va pour kudjat alors.
On va vérifier.
Va pour kudjat, demande au Rav Google. Estropié, on me dit ici. Estropié, ça veut dire qu'il a plus de jambes. Ok. Alors, va pour estropié. Je ne me battrai pas avec vous là-dessus. Et donc, l'estropié dit à l'aveugle, regarde, enfin non, regarde pas. Il lui dit, il y a dans le champ des très très belles filles. Mets-moi sur tes épaules. Je te guiderai et comme ça, on pourra aller les prendre. Bovar ki veni venaviem leochlam. Rachav Chiger al Gabe Souma ve'evium ve'ochlum. Et ils ont fait ça, et ils ont pris les filles, et ils ont mangé. Le Yamim ba la Pardes. Plus tard, le patron du champ est arrivé. Amar Lahem, Bechorot Naot Aire Echanem, où sont mes filles ? Vous rendez compte qu'on est en train de remettre en place tout le Sipour de Etz Hadaat Tov Vara ? Qu'après que Adam Arishon il est mangé, Dieu il vient et lui dit Ayeka, où es-tu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre qu'il ne fallait pas manger? Où sont mes figues? Amar lo chiger, Kloum yeshli raglaim la alerbaem. L'estropié il a dit au Baal HaPardes, il a dit c'est sûr que c'est pas moi. J'ai pas de jambes pour aller les chercher. Amar lo souma, Kloum yeshli enaim lirot. L'aveugle lui a dit, c'est pas moi, j'ai pas de yeux, je peux même pas savoir qu'il y a des filles. Maasa, erkiv chiger al gabe souma vedan otam keechad. Il a mis l'estropié sur l'aveugle et il les a jugés ensemble. Afakadosh baruchu mevi neshama vezoreket baguf vedan otam keechad. Sheneemar, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, יקרא אל השמיים מעל זו נשמה, ואל הארץ לדין עמו, זו הגוף. En d'autres termes, la réponse de Rabbi à Antoninus, c'est de dire, mais on ne peut pas avoir une réalité dans ce monde s'il n'y a pas l'union de la neshama et du gouf. l'idéal de toute la création, c'est l'union de la Neshama et du corps. Prenez un exemple. Prenez un exemple d'une bracha qu'on dit très souvent. C'est une bracha qu'on dit très souvent. Il y en a qui le disent plus souvent que d'autres. C'est la bracha qu'on dit quand on sort des toilettes. Bimchila lechvotrem. Quand on sort des toilettes, on va faire Birkat Asher Yatsar. Ok ? Birkat Asher Yatsar. Maintenant, comment est-ce que ça termine ? On termine Asher Yatsar en disant Baruch Ata Hashem, Rofe Chol Basar, Umafli La'asot. Mazé Apele Azé Agadol. Eh bien, nous dit le Réma, Rabbi Moshe Yisserles, qui pour le coup ne se fait pas un posek alacha, mais se fait un darshan, et il explique Mazé Rofe Chol Basar Umafli La'asot, Kosher Davar Gashmi, Le Davar Ruchani. Et ça, c'est Pele Plaim. Qu'il arrive à relier quelque chose de totalement corporel, notre corps, avec notre neshama, qui font fonctionner le tout ensemble. Ze Pele Plaim. Ze Mafli La'asot. Donc, à chaque fois que vous sortez des toilettes et que vous entendez, vous dites cette brachala, pensez qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre corps, il marche avec l'osmose, avec la neshama. C'est là, le Midrash, dans Bereshit Rabba, va nous expliquer que dans la création du monde, il y a eu un vicoire terrible entre les hélionymes et les tartonymes, entre le monde supérieur et le monde ici. Parce qu'à chaque fois que Dieu a créé quelque chose qui appartenait à un des deux mondes, l'autre s'énervait. Et donc on dit, mala asot, le premier jour, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ma amazé, c'est ba hélionymes ou ba tartonymes ? Alors on te dit, basheni bara ba hélionymes. Irakia, Bashlishi Baramina Tartonim, Tacharet Zese, 1-0, 1 partout, c'est vrai. Barevi Mina Elionim, Miyeime Orot, Bahamishi Mina Tartonim, Yishretsu Amaim. Donc on est à 2-2. Bashishi, qu'est-ce qu'il va faire? Bashishi, Livro et Adam, Amar Imani Bore Oto Mina Elionim. Les tartonymes ne vont être pas contents. Imanibore otomina tartonim. Les lionymes ne seront pas contents. Donc il l'a créé avec une partie des tartonymes, c'est le corps, et une partie des lionymes, c'est la neshama. D'accord ? Donc le rôle de l'homme, et c'est ce que nous enseigne Rabbi Antoninus, c'est justement de faire l'union du corps et de l'âme. En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour Marcus Aurelius Antoninus, il est César de Rome. Donc il est le patron du Olam Hazé. Mais il ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir arrêter de dominer ce monde et de ne pouvoir être que une âme pensante. Rabbi vient lui expliquer, mais non, c'est justement parce que tu es le roi du monde que tu dois maintenant mettre ta neshama dedans. Car l'idéal de la création, c'est le chibour entre les deux. C'est bien. Maintenant que Rabbi a expliqué ça à Antoninus, il dit, ok, maintenant j'ai une autre question. La vision est aussi pessimiste. La vision est aussi pessimiste puisque... Ah, hoppa, attends. Où est mon chat? Où est mon chat? Il est le chat. Hein, la vision est aussi pessimiste puisque l'exemple donné par Rabbi est celle de la faute originelle. L'association des deux âmes et gouffres a mené à la faute dans sa réponse à Antoninus. Il a fait merde. Bien sûr que ça a amené à la faute. Mais tu sais ce que le judaïsme, et c'est ce qu'on va voir justement maintenant, c'est le judaïsme va apprendre que la faute, on peut la corriger. Le judaïsme va nous enseigner qu'on peut faire aussi teshuva. Et évidemment qu'il y a eu une faute, mais c'est évident, il ne pouvait pas ne pas y en avoir. On te met un outil tellement nouveau dans les mains, qui est le corps et l'âme, comment tu veux que ça ne tombe pas? Comment tu veux qu'il n'y ait pas un besoin de rodage? Donc, il y a eu la faute. Le chidouche, c'est qu'il va pouvoir y avoir réunion et élévation. Je préciserai d'ailleurs, par rapport à ta question, que la faute, c'était avant que l'âme ne rejoigne le corps. puisque la faute se trouve dans le Gan Eden, là où il n'y a que la Neshama. Donc si vraiment on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est justement lorsque la Neshama est toute seule qu'elle faute. Mais lorsqu'il y a la réunion, bien sûr que l'homme peut fauter, et j'ai pas mal d'exemples à te donner, mais on peut aussi corriger. Ok ? Donc deuxième question. Amar le Antoninus le Rabbi. Donc on est déjà dans Tzadik Aleph Amoud Bet, hein, on avance à pas de géant. Amar le Antoninus le Rabbi. Mipnema chama yotzet me mizrach veshokat bamaharav. Eh ben voilà une question. Pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? Est-ce que c'est une question d'ordre astronomique? Bah, tchouva vadaï shelo. La question n'est pas astronomique. D'autant plus que nous, on sait aujourd'hui que le soleil ne se couche jamais. Bah, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, le soleil ne se couche pas. Donc la question n'est pas astronomique, la question, elle est purement symbolique. Qu'est-ce que ça... Pardon ? Non, c'est bon ? Qu'est-ce que ça veut dire que nous, les hommes, on voit le soleil se lever à l'est et on le voit se coucher à l'ouest ? Amarle, Rabbi a répondu à Antoninus, « Hey, ave, echpat, nami, achi, ave, amartali ?» Il lui a dit, « Im behemet haya afuch, gam az haita shoel kacha. » En gros, « ma'achpat lecha. » Si c'était levé à l'ouest et couché à l'est, tu m'aurais quand même posé la question. Amarle, donc il lui a répondu Antoninus, Arika minalach mipne ma shokad bamar. Ouais, t'as raison, ma vraie question c'est pourquoi, je m'en fiche de savoir pourquoi il se lève à l'est. Je veux savoir pourquoi il se couche à l'ouest. Ah ah! Pourquoi est-ce que cette question est fondamentale? Quelle est la question de Rabbi? La question de Rabbi est de savoir pourquoi est-ce que le chemin de la vie va vers l'ouest? Pourquoi est-ce que c'est ça la direction de la journée? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça va vers l'ouest? Qu'est-ce que c'est l'est et qu'est-ce que c'est l'ouest? Ma evdel ben mizrach le ben ma'arav. Dans la Torah, on va voir que la notion de ma'arav, de ouest, est mentionnée pour la première fois dans l'histoire de Migdal Bavel. Puisque dans l'histoire de Migdal Bavel, on nous dit qu'ils sont partis de l'est. Donc, s'ils sont partis de l'Est, c'est qu'ils ont été à l'Ouest. Et ils ont cherché à faire quoi? Eh bien, ils ont cherché à créer quelque chose. Ils ont été dans une vallée, ils ont voulu faire une tour. Bekitsur, ils ont cherché à faire évoluer les choses. Semble-t-il que donc la Torah nous enseigne que celui qui va à l'Ouest, il a envie de faire évoluer le monde. Est-ce qu'il va le faire bien évoluer? Est-ce qu'il va le faire mal évoluer? Ça va être un autre débat. Mais aller à l'ouest, ça veut dire vouloir faire évoluer le monde. Le monde aujourd'hui, on peut dire qu'il est séparé de manière schématique et très très générale. On peut dire que le monde est séparé en deux grands pôles. On peut parler de deux mondes véritables. Le monde de l'Ouest et le monde de l'Est. Attention, quand je dis le monde de l'Ouest et le monde de l'Est, il ne s'agit pas de le monde occidental chrétien face à le monde face au monde arabe musulman. Pas du tout. Quand on regarde au niveau de l'histoire des hommes et au niveau géographique, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a deux grandes zones humaines qui, au sein de la même zone, ont toujours été en contact les uns avec les autres, mais n'avaient aucun contact avec l'autre zone. jusqu'à la Renaissance, évidemment. Et particulièrement au XVIIIe siècle, les révolutions industrielles, tout ça. Mais je veux dire, pendant des milliers d'années, dans une zone, il y avait plein de contacts, dans l'autre zone, il y avait plein de contacts, mais zéro contact entre les deux. De quelle zone je parle ? Mazé à zone. Où est-ce que c'est cette zone ? Eh bien, les amis, il y a... on pourrait parler du bloc ouest qui va de l'Europe jusqu'à l'Inde. Et on peut voir qu'il y a toujours eu des contacts humains entre les différentes civilisations. Alexandre le Grand va arriver jusqu'en Inde. Et tous les peuples qui avaient chacun une civilisation différente, hein, qui n'étaient pas exactement les mêmes, mais ils avaient des relations culturelles, commerciales, les uns avec les autres. Et moi qui pensais que l'expression « être à l'ouest » signifiait autre chose, eh bien non. Être à l'ouest, justement, ça ne veut pas dire être dans les nuages. Ça veut dire justement être Baharet. Exactement. Alors, je disais, ça c'est un Merhav, c'est une zone. Il y a une autre zone qui est le Japon, la Chine, Taïwan, l'Indonésie, toute cette zone-là, qui, eux aussi, ont toujours été en contact les uns avec les autres, mais n'avaient pas de contact avec l'ouest. Et si on devait dégager de ces deux zones quelque chose qui les rassemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui rassemble toute la zone ouest et qu'est-ce qui rassemble toute la zone est, eh bien, on pourrait dire que ce qui rassemble l'ouest, c'est la volonté d'évoluer, la volonté d'avancer. Alors que ce qui caractérise les sociétés de l'est, c'est l'idéal de garder ce qu'il y a. Le statique face au mouvement. C'est ça l'Est par rapport à l'Ouest. Dans la Torah, on l'a déjà expliqué quand on a étudié le livre de Bereshit ensemble, vous vous rappelez que dans les 6 jours de la création, il y en a 3 qui sont statiques et les 3 autres qui sont la même chose mais en mouvement. Premier jour, la lumière. Deuxième jour, le ciel et la mer. Troisième jour, la terre. Et le quatrième jour, la lumière en mouvement, soleil, lune, étoile. Le cinquième jour, le ciel et la mer en mouvement, les oiseaux et les poissons. Et le sixième jour, la terre en mouvement, les animaux et l'homme. En d'autres termes, eh bien, il y a ces deux grandes zones qui sont bien déterminées. Est et ouest. L'âme Israël va apporter ce chidouche que tu ne dois pas choisir entre les deux zones. Que là encore, l'idéal est de réunir. Puisque en plus des 3 premiers jours et des 3 deuxièmes jours, il y a dans le peuple juif ce qu'on appelle Shabbat. Or, vous le savez bien, d'après la halakha, le Shabbat, c'est après les 6 jours de la création. Mais d'après la Kabbalah, le Shabbat, c'est au milieu des 6 jours. Puisque d'après la Kabbalah, la semaine commence le mercredi et se termine le mardi. Puisque le Shabbat est la centralité de toute la vie, eh bien il y a 3 jours qui nous préparent à Shabbat et 3 jours où on vit sur les restes de Shabbat. D'ailleurs, c'est vrai aussi au niveau cuisine. Hein. Depuis mercredi, on commence à cuisiner pour Shabbat et jusqu'à mardi, on mange les restes de Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'utiliser le mouvement, le fait d'avancer, de construire, et également de mettre en avant que ce qui était n'est pas forcément à jeter à la poubelle. Voilà la question de Rabbi, de Antoninus. Pourquoi le soleil se lève à l'est et il va vers l'ouest ? Pourquoi est-ce que l'idéal, c'est de partir du statique pour aller vers ce qui va avancer ? Et non pas l'inverse. Peut-être que de rester figé dans ce qui marche, c'est le mieux. Comme dit un ingénieur en informatique à son fils, écoute, ça marche, ne touche pas. Eh bien, toute la réponse de Rabbi va être la suivante. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux dimensions? Amarle, vetiti, Ezra, Amarle, kedei liten shalom lekon, sheneemar utzva hashamayim lecha mishtachavim. Pourquoi est-ce que le soleil va se coucher à l'ouest? C'est pour pouvoir donner, enfin dire shalom à Dieu. Comment ça? Ben oui. Si tu veux aller dans le sens du divin, qui lui n'est pas resté statique, mais a créé le monde, eh bien tu dois aller vers la dimension d'avancée de création. Vers où on se tourne au Beth Amikdash? Vers l'ouest. Et non pas vers l'est. Alors que tous les temples d'idolâtrie se tournent vers l'est, le Beth Amikdash se tourne vers l'ouest. Parce qu'on veut s'attacher à la dimension du divin qui a été de faire avancer et de créer. Amarle, il a répondu, Vetiti ad plaga derakia, vetiten shalom veteul. Alors peut-être que ça suffit que le soleil il vienne au milieu du ciel et il donne shalom à Dieu. C'est pas la peine d'aller jusqu'à l'ouest. Réponse de Rabbi, Mishum po alim ou Mishum ovre drachim. Et non, parce que si le soleil ne va jamais se coucher, s'il ne fait jamais nuit, eh bien les gens qui travaillent et qui sont en chemin, ils ne s'arrêteront jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je viens de t'expliquer que c'était important d'aller vers la progression. Mais si tu ne fais que continuellement aller vers la progression, tu avances vers rien du tout. Parce que pour faire en sorte que ta progression, que ton évolution, que ta construction, elle apporte quelque chose de positif, il faut qu'elle sache d'où elle vient. Et donc, il faut que tu aies des moments de statique. Il faut que tu aies des moments de statique pour justement te poser, réfléchir et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir, après, continuer à avancer et à construire. Donc, voilà ce que nous dit ici Rabbi. Le Olam, le monde, il est et statique et dynamique. La question est de savoir quel est l'ordre des choses. Eh bien, ce n'est pas de la construction au fait d'être statique, mais c'est de ce qui était, on va construire ce qui va être. Cette dimension de est et d'ouest, eh bien, a aussi une autre perception. Nous dit le verset « Kimi mizrach shemesh » c'est pas וידעו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו. Nous dit le prophète Jérémie que à l'ouest on connaît le nom de Dieu et à l'est on connaît le kavod de Dieu. Ben oui, dans toutes les sociétés occidentales on parle de Dieu et on l'appelle par son nom, que ce soit dans le judaïsme ou que ce soit God, Dieu, Allah. Toutes les cinq minutes, on donne des noms. Alors que la première phrase du Tao de Jin, de notre ami Lao Tse, c'est de dire « Le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. » Chez nous, on connaît le nom. Le nom, c'est ce qui nous permet de réaliser un idéal, donc d'avancer. Le Kavod, c'est ce qui nous permet et ce qui nous fait être wow, on s'arrête. Kavod, c'est garde à vous. Quand tu montres le kavod à quelqu'un, tu ne bouges pas devant lui. Comme je dis à mes enfants pour le kiddush, on peut faire le kavod au kiddush et se lever. C'est moutard. En d'autres termes, Bamizrach yodim et kavod, aval lo yodim et Hashem. Bamaharav yodim et Hashem, aval lo yodim kvod Hashem. Donc, pendant 2000 ans et quelques, Am Israël, il a essayé d'apprendre le kavod au monde. Maintenant, il faut aller à l'est pour leur apprendre le nom de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on envoie tous nos meilleurs éléments après les 3 ans de service militaire. On les envoie faire un petit tour à l'est pour qu'ils apprennent là-bas le Shem Hashem aux différentes cultures qui sont là-bas. Donc l'idée, c'est de savoir d'où on vient pour justement pouvoir construire l'avenir. Ah, très bien. Donc maintenant qu'on a dit ça, alors on peut aller voir où se trouve l'homme dans ce projet. Ve'amar lo Antoninus le Rabbi. Il a un nouveau problème, Antoninus. Neshama, me'ematai nitna ba'adam. Mishat pekida ou mishat yetzira. À partir de quand il y a la neshama dans l'homme? À partir de la pekida ou de la yetzira? Alors, c'est quoi la pekida et c'est quoi la yetzira? Eh bien, la pekida, c'est le moment de la fécondation. Ok? La yetzira, c'est 40 jours après la fécondation. Donc, Rabbi demande, Antoninus demande à Rabbi, c'est quand que la neshama elle arrive? Au moment de la pekida, c'est-à-dire où il n'y a encore aucune réalité concrète, ou alors au moment où il y a déjà le début de la formation du système nerveux. Réponse de Rabbi, Amarlo, Mishat Yetzira. Depuis la Yetzira. Amarlo, Antonin lui répond, Efshar Khatichat Basar Omedet Shlosha Yamim Belom Melach Veina Masrachat. Et la Mishat Pekida. Antoninus lui dit, ma pitom, tu dis que c'est depuis la Yetzira, mais arrête, on sait très bien qu'un morceau de viande, il ne peut pas rester plus de 3 jours sans vie. Sinon, il pourrit. Donc toi, tu es en train de me dire que la Neshama, qui est ce qui donne la vie, elle est venue que 40 jours après la conception? Ben, c'est pas possible. Réponse de Rabbi Houda Hanassi, regardez la réponse, elle est fantastique. Amar Rabbi, davar ze lamdani Antoninus umikra mesayahu shenemar ufekudatecha shamera ruchi. Rabbi dit, eh ben autant pour moi. Rabbi il m'a appris un truc. Antoninus il m'a appris un truc. C'est-à-dire que Rabbi accepte l'argument d'Antonin et il accepte de revenir sur ses propos. Effectivement, la neshama, elle rentre dans l'homme au moment de la pekida. Au moment de la fécondation entre monsieur et madame, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu il demande à la neshama est-ce qu'elle veut descendre ou pas. Et c'est pour ça qu'on dit Vahashem pakad et Sarah kaasher amar. Et c'est à ce moment-là que l'âme de Yitzhak descend. Maintenant, vous comprenez que j'ai dit, c'est à ce moment-là que Dieu il demande à la Neshama est-ce qu'elle veut descendre. Parce qu'effectivement, c'est un choix. On est tous là parce qu'on a accepté d'être là. Et ce choix, il se fait au moment de la Pekida. Parce qu'après, une fois que tu es là, parce que tu as décidé, on ne demande plus ton avis. C'est pour ça que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dira « Al kochacha ata notzar, val kochacha ata chay, val kochacha ata met, val kochacha ata atid iten din v'cheshbon. » Mazé al kochacha? Oui, c'est contre ta volonté à partir de quand? De la Yetzira. Mais la fécondation en elle-même, c'est le moment où Dieu t'a demandé ton avis, et si tu es là, c'est que tu as dit oui. Ve'amar lo Antoninus le Rabbi. Il continue. Mais matai yetzerara sholet ba'adam. Mishat yetzira ou mishat yetzia. Le yetzerara, c'est quand? C'est quand il y a les 40 jours après la fécondation? Ou alors c'est à la naissance? Amar lo, Rabbi il a répondu. Mishat yetzira. Il est très yetzira, hein, Rabbi. Amarlo Antoninus, imken, boed bemae imo veyotse, ela mishat yetzia. Mais non, lui dit Antoninus, c'est pas au niveau de la yetzira, c'est au niveau de la yetzia, puisque c'est à ce moment-là que le bébé il tape contre sa maman. Donc tu vois bien que c'est le moment de la yetzia. Amar Rabbi, דבר זה לימדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו, שנאמר לפתח חטאת חובץ. C'est que quand on sort la pétard qu'on peut décider de faire le bien ou le mal. Et donc Rabbi, une deuxième fois, accepte eh bien, l'enseignement de Antoninus. Rabotai, ma korepo. Le Yetzer Hara, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, c'est la volonté de recevoir la vie. La volonté de kiffer. Eh bien, cette volonté de kiffer, elle anime l'homme dès le moment où il sort du ventre de sa mère. Pourquoi est-ce que ça ne l'anime pas avant ? Eh bien, tout simplement parce qu'avant, il reçoit Benkar ou Benkar. Il n'y a pas de volonté, il reçoit. Mais quand il sort du ventre de sa mère, c'est là qu'il peut commencer à être Baal Ratson et sa première volonté, c'est de recevoir. Mais nous dit Rabbi, ce que me dit ici Antoninus, ce que je viens d'accepter, c'est pas mal. Mais en plus de tout ça, j'ai un verset qui me prouve qu'une fois qu'on est sorti, on a le libre arbitre. On peut faire ce qu'on veut. On peut décider qu'on va construire le monde ou alors on peut décider qu'on va le détruire. Mais ça sera entre nos mains. Vezé bidiou kainyan. Rabbi, pourquoi il a besoin qu'Antoninus lui apprenne ça ? Parce que Rabbi vit dans une réalité où la vie ne vaut pas tellement le coup d'être vécue, puisque c'est le début de l'exil effectif. Il faut que celui qui est le patron de la vie, César, lui apprenne « Non, mais ça vaut le coup quand même, parce que tu m'as expliqué que tout va dans le bon sens. Tu m'as expliqué, toi, Rabbi, que le soleil va vers l'ouest, c'est-à-dire que le monde il évolue et il avance dans le bon sens. Tu m'as expliqué également, dans notre première discussion, tu m'as expliqué que l'union du corps et de l'âme, c'est ça l'idéal de l'homme sur Terre. Donc moi, je peux te dire que ça se passe véritablement au niveau individuel à chaque naissance. Où l'homme, il peut décider maintenant eh bien, d'être celui qui va construire le monde. Certes, toi tu le sais, mais tu ne pouvais pas l'exprimer parce que tu étais en exil. Moi, César, je vais te l'exprimer. Et d'où on sait que Rabbi le savait, c'est parce qu'à chaque fois, il dit « J'ai appris ça de Antoninus » et en fait, il y avait un verset. C'est-à-dire, je connaissais le verset, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. À cause de ma situation d'exil. En d'autres termes, les relations entre Rabbi et Antoninus nous disent une seule chose. La discussion, elle est très simple. Est-ce que le monde, il va dans le sens du positif parce que la création va être bonne ou est-ce que le monde va dans le sens du négatif? Eh bien, le monde, on l'aura compris, d'après Rabbi et Antoninus, va dans le sens du positif. L'union du corps et de l'âme permet à l'homme d'être un pelé, d'être mafli la asot. Cette union va lui permettre de comprendre qu'il doit faire avancer le monde et que donc c'est à lui que revient la responsabilité de le faire. Voilà les discussions entre Antoninus et Marcus Aurelius Antoninus et Rabbi Yehuda Anassi. Bon, ben, très bien. Mais à ce moment-là, puisqu'on a répondu à cela, eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous poser une seule question. D'accord, le monde, il va dans le bon sens. À Kol Beseder. Et j'ai une responsabilité là-dedans. Oui, mais tu vois bien que j'y arrive pas. La preuve, je meurs. Je meurs et le monde, il n'a pas fini d'être corrigé. Le monde, il n'a pas fini d'être au top. Ah, ben, pas de problème. Yesh triat hametim. Ah oui, mais attendez, deux secondes. Quand je reviendrai je reviendrai avec mes problèmes. Disons, quelqu'un, il est mort du corona, Khalila. Est-ce que quand il aura trait à Tametim, il aura toujours les symptômes du corona, donc juste avant sa mort, ou alors il revient au top? Quelqu'un qui est mort, il était, comme on a dit, estropié. Il revient avec les jambes ou sans jambes? Cette question n'est pas une question anodine. C'est la question de savoir, est-ce que celui qui revient Zéani ou Zémichéou Acher? Seulement, pour approfondir cette question, eh bien, il va falloir qu'on s'arme de patience, parce qu'on n'y répondra pas ce soir. On n'y répondra pas non plus la semaine prochaine, parce que Hanouka. Et donc, on n'y répondra que la semaine d'après, après Hanouka. Et ce qui me permet de vous souhaiter un très bon Hanouka, de bonnes fêtes. Vous inquiétez pas, j'ai prévu d'envoyer des petites vidéos de Hanouka, histoire qu'on soit quand même en contact, même pendant la fête. Amen, Kenny Ratson, ve Erev Tov, les Koulam.
Merci beaucoup.
Chazak ou Baruch.